Les zombies sont trois, mais je n'en vois que deux en face de moi, Étienne Jomet et Cosmic Neyman. Il nous manque donc Dr. Schoenberg pour compléter la bande. Ils sont sombres mais joyeux, jouent de plein d'instruments différents, le sax, la batterie, les machines synthétiques, des boîtes à rythme, des métallophones. Ils transforment des sons pour mener à la trance, l'horreur, le cinéma, ou pourquoi pas à l'afrobeat de Fela. Et oui, tout ça d'un coup, ils officient sur le label Versatile que l'on apprécie beaucoup à Radio Nova. Le dernier album en date, Livity, est sorti en 2017. Bonsoir zombie.
Bonsoir.
Tout va bien?
Oui, il y en a un qui est effectivement en maillot là, sur la plage en ce moment. Donc,
À Saint-Jean-de-Luz, on lui fait coucou.
On le salue bien sûr.
Salut docteur.
On va commencer cette émission en conduisant sur une route en espérant qu'elle nous mène vers l'univers des zombies. On va écouter un morceau sorti sur votre premier album en 2007, A Land for Renegades. C'est Driving This Road Until Death Sets You Free. Et je l'ai dit du premier coup.
Contrebande. Sullivan Clabot. Nova.
C'est quoi ce son qu'on entend là? Un son qu'on pourrait qualifier d'un sample, je sais pas trop quoi. Mais...
C'est un petit peu ce qu'on avait sous la main au moment de l'enregistrement, puisqu'on l'a fait dans notre studio de répète. Et on avait un peu tous les instruments qu'on trouvait, qu'on utilise sur scène, qu'on nous a prêtés aussi. Là, je pense que c'était peut-être une petite guitare juive, là, l'espèce de harpe, vous savez, un peu jouée. Bah, que c'est Neyman, je pense, qui grattait, je sais pas. Peut-être. Ou alors une guitare. On avait demandé aussi à des amis de jouer de la guitare dessus. Ça fait longtemps déjà, hein, ce morceau.
Souvenirs sont vagues, c'était il y a plus de 10 ans.
Ouais.
C'est plutôt agréable de réécouter ce disque qu'on avait fait avec Antoine Gaillet, qui a enregistré et produit ce disque, qui je trouve pas trop vieilli. C'est plutôt plaisant, a priori, pour nous en tout cas.
Et le Mélotron disait à l'époque que ça pouvait déjà être la BO d'un film de Carpenter.
C'était avant qu'on fasse justement les reprises de Carpenter. Après, on a vraiment pris conscience de ce pouvoir-là, de qu'on avait à peu près les mêmes genres de sons, les mêmes genres d'influences que lui. Et du coup, après, on a fait des reprises. Mais à cette époque-là, on s'amusait. Je suis même pas sûr qu'on avait trouvé le nom au moment où on a enregistré ce morceau du groupe.
Et vous parlez justement des instruments que vous trouviez comme ça un peu n'importe où et que vous utilisiez pour faire vos compositions. À quel moment on décide en fait qu'un objet qu'on trouve comme ça dans le studio autour de nous va devenir un instrument et va créer un son pour la composition, pour le morceau qu'on est en train de faire?
Je crois que c'est bien de se surprendre soi-même, quoi, et d'essayer de... C'est simplement en le prenant et en essayant de faire quelque chose avec qu'on se dit... Enfin, ça marche pas toujours d'ailleurs, mais... De par exemple prendre des instruments qu'on n'a pas l'habitude de prendre, c'est ce qu'on fait de temps en temps quand on enregistre un disque. Pour des fois, quand on est justement, on ne sait plus trop où aller, ça permet des fois de déverrouiller les impasses du studio.
Ouais, ça stimule l'imagination, la création, ça nous pousse à faire des choses qu'on ne s'imaginait pas faire.
Et est-ce que c'est un objectif pour vous de rendre la source du son pas reconnaissable, ou quand on entend justement, on va créer un son pour le son qui l'évoque et pour le son qui va faire qu'on va utiliser dans la composition, est-ce que c'est un objectif justement qu'on arrive, donc qu'on puisse pas reconnaître la source de ce son-là?
Je sais pas si c'est notre objectif. Je pense qu'on est plus inspiré par les sons que par les notes, c'est-à-dire par ce qu'ils évoquent, où est-ce qu'ils nous transportent. C'est plus ça qui nous inspire que vraiment essayer d'en faire quelque chose avec. À vrai dire, c'est presque l'instrument qui nous donne l'idée de la musique.
Oui, puis on ne transforme pas spécialement vraiment beaucoup les sons. On enregistre encore les sons avec des micros, enfin, tout du moins tout ce qui est acoustique. Et après, on aime bien passer ce qu'on enregistre dans des effets, mais c'est des effets assez simples. C'est des reverbs, des délais, voilà, des choses qui ne transforment pas tant que ça le son, peut-être contrairement à des gens qui travaillent plus avec... des ordinateurs, voilà, qui cherchent vraiment à trafiquer le son, on fait pas vraiment ça.
Parce qu'on en parlait avant de commencer à enregistrer cette émission, il y a quasiment jamais d'ordinateur sur scène avec vous.
Bah, il y en a jamais. Ouais, on cherche pas non plus à reproduire ce qu'on a fait en concert. Souvent d'ailleurs, les morceaux évoluent pas mal au moment du concert parce que on n'est pas dans quelque chose de simple ou numérique qui fait que on arrive à reproduire la même chose. Là, les choses sont jouées, donc forcément elles sont différentes au moment où on les rejoue.
Contrebande, c'est un invité par émission et un dispositif très particulier. Devant chaque invité, il y a une tablette avec différents boutons de couleur. Chaque bouton correspond à un son qui sera déclenché par l'invité. Et ces sons formeront la trame de notre entretien.
Mmh.
Les zombies, je vous propose de lancer cette émission.
Allons-y. On appuie sur un seul. Oh là là, c'est space, hein.
C'est très François Drouet.
Moi, le personnage, on pense, ça pourrait être une musique de film.
Le générique d'Antenne 2.
Ah oui, superbe. Mais ça, c'est les années 70.
Ouais,
où il y avait les petits deux qui étaient dessinés, qui s'imbriquaient. Ah, oui. Ah là, c'est une Madeleine. Alors, je sais pas ce que j'ai mis en même temps, moi.
Mais le générique d'Antenne 2, qu'est-ce que ça vous évoque? Qu'est-ce que ça vous...
C'est une bonne question pour Étienne.
Bah oui, parce que c'est moi le plus vieux, et je pense que à cette époque-là, on avait des nounous. J'avais pas la crèche. Et les nounous...
C'était la télé.
Voilà, avec une tartine de confiture. Et puis le mercredi, les émissions de son s'arrêtaient assez tôt. Hein. Ça s'arrêtait la télé là, de mon temps. Ça paraît dingue, mais il y avait que, je sais pas, trois chaînes. Et puis elle s'arrêtait le soir. Donc on vivait pas du tout les choses de la même façon. Hein. Donc effectivement, même le générique, c'était une source d'émerveillement.
Mais dans sa composition sonore, dans la façon dont il est fait, dans les sons qu'on a entendus, vous avez dit tout à l'heure ça pourrait être du François de Roubaix.
Mm-hmm. Oui, ouais, parce que déjà c'est le genre de son qu'il utilisait, la même époque. Il a fait beaucoup de musique justement pour la télé, des films très populaires. Donc il faisait partie de l'environnement sonore de cette époque, François de Roubaix. Hein. C'est un maître de composition, mais malgré tout, on lui faisait confiance pour des choses très populaires. Alors ça, c'est
comme Chapi Chapeau. Enfin, ouais. Voilà. Et je pense que voilà, c'est ce qu'on dit souvent aussi. C'est finalement inconsciemment des choses qu'on a entendues. Dans notre enfance, et même si à l'époque on savait pas comment c'était fait, ce que c'était, qui sont restés, et qui aujourd'hui, nous ont beaucoup inspirés finalement, ou peut-être juste formés dans une ambiance sonore, une culture sonore de cette époque qui nous a marqué, quoi, clairement.
Et maintenant, en réécoutant ce genre de son, vous avez l'impression que votre travail de compositeur musicaux et d'artiste sonore, vous sentez que ça a été imprégné par cette époque-là et par les sons que vous avez pu entendre dans votre enfance ?
Oui, inconsciemment. Ouais, ils ont joué inconsciemment sur notre recherche musicale là, telle que vous l'entendez aujourd'hui. C'est peut-être pour ça qu'on s'est intéressé au synthé, c'est à cause de ça. Après, on n'est pas tellement dans la reproduction parce que c'est quand même, ils ont été assez loin dans la recherche sonore. Nous, on a utilisé ces instruments-là parce qu'ils étaient à notre portée, parce qu'ils n'étaient pas chers. C'était assez simple de les utiliser. Et puis voilà, avec un doigt, un peu d'imagination, on peut faire quelque chose de personnel. C'est tout ce qu'on demande à un instrument, c'est qu'il se passe quelque chose quand on y joue, quoi. C'est d'émotionnel, pas forcément. On n'est pas dans une appropriation technique des éléments, ni dans une analyse très profonde de la musique qu'on fait, des références, tout ça. On nous en cite toujours beaucoup, mais à vrai dire, on essaye de pas trop y penser quand on fait la musique.
On lance un autre son.
Vas-y, Étienne. Ah.
Ah bah oui, mais ça, bah, je reconnais maintenant. Ça, je reconnais. C'est un extrait de... du disque qu'on vient de sortir avec Sonic Boom. C'est un hommage à la Monte Young. Ça s'appelle Infinite Music. Donc il y a moi, il y a Céline Vadier qui est au chant et Sonic Boom à la...
Et la Monte Young, ça représente quoi pour vous ?
Alors ça, c'est un artiste justement à la limite de la musique contemporaine, voire conceptuelle, et du rock, et de la musique indienne. Justement, c'est ce qui nous intéressait. C'est qu'il était difficile à classer, en même temps, il fait la liaison entre tous ces éléments-là. Neumann comme moi, on est très fan de Sonic Boom. C'est un musicien qu'on suit depuis longtemps, qui a commencé par le rock et puis après s'est intéressé un peu comme nous au synthé. On a la même culture avec Neumann de la musique indé, hein, c'est ce qu'on écoutait au départ, entre autres. Hein, ces musiciens indés qui sont appropriés les synthétiseurs, ils apportent. C'était pas du tout comme les scientifiques du GRM ou comme les précurseurs des années 70 avec les synthés, ils ont cherché des voix beaucoup plus différentes, qui sont justement proches du rock, proches des musiques planantes, des musiques de films. La Monte Young, lui, il m'a un peu révélé à cet univers-là.
À l'univers de la musique contemporaine ou à l'univers de la musique justement un peu... comme ça, expérimental, qui...
Bah les deux. Moi, j'ai du mal à faire la différence entre tout ça. Hein. Musique contemporaine, musique expérimentale. On peut dire contemporaine, c'est plus prestigieux. Ça s'appelle à quelque chose comme la musique savante. Et puis la musique expérimentale, oui, c'est un peu fourre-tout. Je pense que c'est quelqu'un qui sait assez où il va, enfin, qui est en recherche. Et du coup, même s'il y a quelque chose de très simple dans sa musique, c'est-à-dire des notes très continues, quasiment... Ouais, qui ne varie pas. Il y a quand même une recherche dans le temps, cette volonté d'étirer le temps et de sortir d'une façon d'écouter de la musique, sortir d'une temporalité, d'un espace. Il essaye de créer des espaces, quoi, à la fois sonores et aussi avec les Dream House. Il fait la musique dans des pièces avec sa femme qui illumine. On peut venir se reposer autant de temps qu'on veut. On se laisse bercer par des sons. Voilà, j'aime bien cette façon de faire la musique autrement.
Et quelle importance elle a aujourd'hui dans l'univers musical actuel, cette musique-là, cette musique contemporaine, expérimentale?
Bah, l'intérêt pour moi, c'est que justement, elle se détache de toute chose commerciale, c'est-à-dire passable en radio. Enfin là, on en écoute un morceau en extrait, mais évidemment, c'est des choses qui sont plus à vivre en vrai, pour prendre la dimension. C'est des musiques qui sont faites pour un petit peu sortir des cadres des salles de concert, sortir des cadres de ce qu'on écoute, de notre façon d'écouter habituelle. Et c'est-à-dire, la radio, ça bouscule un petit peu notre façon de consommer la musique.
On va faire une pause avec l'un de vos morceaux qu'on pourrait qualifier de lifting musical cosmique, parce que c'est un morceau repris du Rocket No. 9 Take Off to the Planet Venus du jazzman expérimental Sun Ra. Et on va donc écouter Rocket No. 9.
C'était donc Rocket No. 9 des Zombies Zombies sur Nova. Étienne Jomet, Cosmic Neumann, à vous de jouer et de lancer un nouveau son.
Vas-y, Étienne.
Allez, hein.
qu'on va bien pouvoir dire sur ça.
Qu'est-ce que c'est déjà pour les auditeurs qui connaissent
pas? Ah si, il y a des choses tu peux dire là.
Alors oui, c'est un morceau issu de notre dernier disque. C'est le premier morceau d'ailleurs qui s'appelle Levity. Voilà.
Il y a quelque chose qui m'interpelle, c'est ces bruits d'ambiance, ces oiseaux, cette jungle. C'est quelque chose que vous avez enregistré vous-même dans la...
Ça a été enregistré dans la jungle au Laos. Et en fait, c'est Julia Grossman qui a réalisé le clip de ce morceau qui allait tourner au Laos et qui a enregistré des sons aussi en tournant les images. Et on a pris donc un extrait de ces sons.
On entend énormément de sources différentes, d'instruments différents. C'est, d'où ça vient, d'où vient cette envie?
Ah ben, d'une part du membre qui est à la plage, là, Dr. Schoenberg, qui fait pas mal de...
On l'embrasse à nouveau.
Oui, qui fait pas mal de percussions et qui utilise aussi des sons, alors des sources de sons différentes avec des synthés, notamment un Buchla, qui est un synthé assez riche en palette sonore, très différent de ce que j'utilise moi. Il y a aussi pas mal de percus qu'on a rajouté peut-être en complément.
Oui, bah, il y a aussi ton métallophone, Étienne.
Ah, oui.
Voilà. Un instrument donc avec des lames de métal qu'on joue, qui joue les notes, là, qui joue la mélodie, une nouveauté sur ce disque, voilà, par exemple.
En live, on a l'impression que c'est presque un peu plus épuré que ce qu'il y a en studio. C'est fait exprès ou...
Oui, parce qu'on a peut-être rajouté un petit peu plus de choses là sur ce morceau. On l'a joué tel quel en live, mais effectivement tout est percu. On peut pas tous les reproduire en live.
Oui, parce qu'en live tout est joué en direct dans la salle.
Ah ouais, de la même façon. Ouais. Et puis c'est vrai qu'aussi il y a un truc dans le live, c'est que nous on prend beaucoup plus le temps que sur le disque. C'est-à-dire que sur le disque on a tendance à concentrer un petit peu nos idées, toutes les idées de morceaux, voilà, pour que ça soit audible en je sais pas combien dure ce morceau, là, 7-8 minutes peut-être. Et en live on le fait ouais, minimum 10 minutes, hein, sans problème hein, ce morceau. Et on aime bien prendre le temps pour justement bien contrôler les éléments, les effets. Puis quand il y a un moment qui nous plaît, on fait durer plus. Au contraire, on abrège quand quelque chose ne marche pas. On aime bien se garder cette liberté en live de décomposer.
En fonction de ce qui se passe dans la salle, donc.
Oui, puis sur scène, c'est un tout.
Planète était déjà très présente dans l'imagination des gens.
We take you now to the field headquarters of the state militia near Grover's Mill, New Jersey.
Alors, je reconnais, alors encore.
This is Captain Lansing of the Signal Corps, attached to the state militia, now engaged in military operations in the vicinity of Grover's Mill.
Je l'ai, le disque.
Cylindrical object which lies in a pit directly below our position.
C'est Orson Welles.
Surrounded on all sides by 8 battalions of infantry.
1938.
Ouais.
Looks almost like a real war.
Qui a fait cette espèce d'émission en... radio, qui paraît très réel, qui a fait peur à toute l'Amérique, où c'était la guerre des mondes. En fait, il racontait l'histoire de la guerre des mondes. Enfin, il a mis en scène théâtralement la guerre des mondes. Et comme les gens sont tombés dessus sans se rendre compte que c'était une pièce de théâtre, enfin, c'est radiophonique, ils y ont cru vraiment. Ouais, quand on écoute, là, c'est assez crédible. Et ça l'a rendu célèbre. Hein. C'est très agréable à écouter. Il existe en CD. Je vous conseille de l'acheter.
C'est important pour vous, la radio?
Ouais. Moi, j'étais étudiant en son et j'ai fait pas mal de radio en tant que technicien. J'ai même animé quelques émissions au tout début. Hein. Et puis, je trouve que c'est un des rares médias où on ressent cette liberté de ton ou de même, tu vois, comme maintenant, j'ai l'impression que la taille de mes phrases a un peu d'importance. Ce qui compte, c'est ce qu'on dit, c'est pas parce qu'il y a une pub plus loin et qu'il faut se dépêcher. Donc, cette pression-là, on la ressent beaucoup moins en radio.
Et la création, la stimulation de l'imaginaire qu'on peut avoir en radio, justement, quand on va, je sais pas, monter des modules, assembler des différents sons qui n'ont rien à voir entre eux pour essayer de créer quelque chose et pour essayer de stimuler l'imaginaire des auditeurs. Est-ce que c'est quelque chose qui existe aussi dans votre musique ?
Ouais. On fait de musique instrumentale, alors forcément, il n'y a pas de. Les mots un peu n'ont pas la même valeur. C'est-à-dire qu'à part le titre, c'est un peu aux gens de trouver un petit peu ce qu'on veut raconter ou ce qu'on cherche à faire. C'est l'imaginaire des sons qui provoque ça chez l'auditeur. Du fait que c'est instrumental, ça colle parfaitement à des images. Donc parfois, notre musique est prise dans les musiques de films. Ouais. Bah pour le coup, là, c'est François de Roubaix. Ah ouais, il a un style, justement, qui se reconnaît tout de suite, une composition, et puis... Ouais, comme ça, avec des mélodies très compliquées, des changements d'accords, des sonorités qui mélangent à la fois des choses modernes avec les synthés et des instruments plus traditionnels, la batterie, la guitare, voire des flûtes, un quart. Il y a une réédition là, très intéressante, là, chez Transversal, justement, que je vous conseille d'acheter. D'inédits, de musique de film qu'il a fait. De toute façon, il a fait que des musiques de film, je crois. C'est un artiste, ça vaut le coup de si vous tombez sur quelque chose, ça vaut le coup d'acheter.
Ouais, quelque chose qui marque dans ce genre de son, c'est quand même une espèce d'intemporalité. Bon, là, quand même, c'est un peu marqué par le temps, mais il y a beaucoup de musique, notamment la vôtre, où quand on écoute des morceaux 10 ans plus tard, on n'a pas l'impression, bon, ça pourrait être sorti actuellement et il y a une espèce de vétusté du son qui n'existe pas en fait. C'est dû à quoi ?
Peut-être par le fait qu'on n'essaye pas d'être à la mode justement. Je pense que un des gros dangers des musiciens, si j'ai un conseil à donner aux musiciens qui débutent, c'est pas d'essayer d'imiter ce qui marche actuellement parce qu'ils auront déjà un train de retard. C'est-à-dire que en fait la mode change tellement vite et... que en fait de s'attacher aux gimmicks du temps enfin actuel de ce qui se fait actuellement ça standardise finalement ça standardise un peu le son et comme les gens qui ont commencé les précurseurs sont toujours ceux qui durent dans le temps parce que c'est eux les plus inventifs donc voilà on n'a pas d'autre choix dans la musique d'essayer de faire les choses différemment parce que sinon on risque d'être enterré dans la masse, il y a tellement de musique aujourd'hui produite, c'est tellement de plus en plus facile de faire la musique, c'est de plus en plus accessible, tant mieux, hein, c'est bien, mais en même temps, ça noie un petit peu l'information.
Il y a peut-être aussi quelque chose dans le choix des sons qu'on utilise dès le début, on disait tout à l'heure que vous n'utilisez pas du tout d'ordinateur, enfin en tout cas sur scène.
Non mais j'ai pas l'impression, on utilise des synthétiseurs qui sont aujourd'hui, enfin j'ai pas l'impression que ça soit si rare que ça non plus, c'est la façon dont on les utilise aussi, comment on s'approprie les instruments. On peut pas dire que la guitare ça soit un instrument ringard ou moderne, pourtant les gens continuent à composer avec, peu importe, et puis ça restera un instrument génial avec lequel faire des chansons nouvelles. Donc l'instrument c'est pas ça qui fait qu'un morceau est moderne ou pas. Encore un morceau de Zombie du dernier album. Bien, comme ça, on aura bien fait la promo.
Ça, c'est Hippocampe.
Sur l'album Livity, du coup, qui est sorti en 2017 sur le label Versatile.
Mixé par iCube. Je pense que sur ce morceau-là, on sent bien la patte d'iCube, qui est aussi un ancien de l'écurie Versatile. Peut-être le plus ancien, qui a sorti beaucoup de choses ces 20 dernières années chez Versatile et qui, depuis quelques temps, mixe la plupart des choses qui sortent sur Versatile, qui donne sa patte, une belle patte. Là, en l'occurrence, il est très fort pour mixer les boîtes à rythme.
Il est très fort en son.
Très fort en son, ouais.
C'était une commande pour une musique de dessin animé, ce morceau-là, ou pas du tout?
Un film d'animation.
Un film d'animation.
C'est un peu nous qui avons décidé de le faire. Hein.
Il y a Cosmic Newman qui fait une drôle de tête en disant non, c'est faux.
Ah, non, c'est pas un film d'animation, c'est un documentaire, j'ai dit n'importe quoi, merci.
Non, non, en fait, on a participé à l'époque. Enfin, ça se passait au Louvre, à l'auditorium du Louvre. On nous avait proposé de remettre en musique des films de Jean Painlevé, qui était un scientifique français qui faisait des films généralement sur la faune aquatique. Et là, c'était un film sur les hippocampes. C'est pour ça que le morceau s'appelle comme ça, Hippocampe. Et voilà, donc c'était... On avait fait ça pour un concert à l'auditorium du Louvre, invité par Robin Steiner. Et puis voilà, ça s'est retrouvé sur un disque après.
Aussi dans ce morceau, c'est cette espèce de succession de demi-tons répétés très rapidement.
C'est un morceau en ré, et en fait on passe toujours du ré au ré dièse, et je trouve ça marrant. C'est vraiment, sur le papier c'est complètement absurde, mais il y a quelque chose qui marche et qui crée une tension incroyable. On a du mal à, justement, il y a une mélodie, mais en même temps elle est un peu, elle se frotte beaucoup, parce que vous savez, deux demi-tons mélangés, c'est très... Ça se fait pas beaucoup en musique, mais on a trouvé, nous, le moyen de, voilà, de rendre ça, de faire un morceau avec. Donc, je suis très content.
Ben, en fait, le film est assez long.
Oui, aussi. Ouais.
Il fait 10-15 minutes.
Ouais.
C'est assez amusant de voir des hippocampes gambader sur cette musique.
Ah oui, il y a quelque chose qui marche, quoi, qui est très bizarre. Instruments bizarres. C'est des animaux assez bizarres.
Les films sont magnifiques.
Ah ouais.
Les films sont magnifiques, notamment, et surtout, Jean Painlevé à l'époque aimait beaucoup aussi la musique. Il y a de très bonnes musiques de ses films, notamment François de Roubaix qui a fait un morceau qui s'appelle Cristaux liquides pour un des films de Jean Painlevé qui a été ressorti il y a quelques années par Born Bad en 45 tours. Il y avait souvent des musiques très intéressantes dans ses films aussi. Ouais.
Alors on va lancer le dernier son de cette émission.
Alors moi, je m'y perds un petit peu, peut-être par là.
Vas-y.
Ah bah c'est Kraftwerk. C'est Autobahn.
Ouais, le morceau Comotan Melody, qui est sorti en 1974. Qu'est-ce que ça change, l'arrivée de Kraftwerk dans la musique électronique ?
Ça change tout, je crois.
Ah ouais, ouais, je pense. Je pense que c'est de cet ordre-là.
Je pense que c'est un des groupes qui a su mettre la musique synthétique, en rendre de la musique synthétique aussi pop et abordable, quoi. Faire des chansons que toute la planète a écoutées. Je pense que c'est les pionniers de ça. Alors qu'avant, c'était quand même souvent des disques vachement plus pointus, bizarres. Et puis surtout, qui ont fait des chansons magnifiques, l'utilisation des synthés, du son, de composition est difficile de faire mieux. Je pense que c'est...
Difficilement, dépassable. C'est presque la perfection. Si ça existe.
Mais c'est intéressant, voilà, je sais qu'on dit souvent du mal de Jean-Michel Jarre, mais je pense que Jean-Michel Jarre a un peu fait ça en France aussi. Mais voilà, je pense qu'en Allemagne, en France, c'est des gens qui ont rendu populaire cette musique d'une manière vraiment intéressante. Ça fait du bien.
Merci Zombie Zombie d'être venu dans Contrebande. Avec quel morceau de votre discothèque vous voulez qu'on termine?
Il y en a peut-être un là, dans le tas, là, non? Ah, morceau de Zombie Zombie, Lose. Sur le dernier album, encore une fois. Un petit hommage aux Stooges. Par le titre, hein. La musique, je pense pas. Et trois os dans le... Voilà, dans le titre, c'est ça.
Et on était ravis que Iggy Pop le passe dans son émission sur BBC Six, sans qu'il sache que ce soit un hommage à lui. C'était une très bonne surprise, en tout cas. Merci Iggy.
Merci Iggy, et merci à vous d'être venu.
Oui, bisous Iggy.
Bisous.